si les patrons, les moyens qu'ils ont aujourd'hui, ils ont les lois avec eux, les médias avec eux, le gouvernement avec eux.
On est là à des revendiquer nos droits et nos valeurs, nos respects.
Bonjour à toutes et à tous.
Vous écoutez l'actualité des luttes.
Comme tous les jours, du lundi au vendredi.
De 12h30 à 13h30.
Sur FPP.
Fréquence Paris Pluriel 106.3.
On regroupe les collègues, on arrête de travailler, on discute.
Le salarié est vu comme une machine, donc il ne doit pas se rebeller, il ne doit pas avoir d'état d'âme, il doit juste produire et fermer sa gueule.
L'actualité des luttes est une émission d'information qui donne la parole aux acteurs des luttes.
Ah oui, c'est bien, parce que là, ça dérange. Ah oui, ça dérange sérieux. Mais il faut persévérer, il ne faut pas s'arrêter à une action.
Nous ne lâcherons pas cette police tant qu'elle aura un traitement inhumain et dégradant à l'égard d'une partie de la population.
Il y a eu la parole aussi, la parole donnée aux gens. Là, c'était plus TF1 et tous ces blaireaux de médias, là.
Cette justice à géométrie variable, elle est inadmissible. Et c'est normal qu'elle produise de la colère.
On en a marre, croyez-nous, on en a marre de se faire expulser d'un endroit à l'autre, messieurs.
Ça fait des allures de fête qui dégénèrent.
N'hésitez pas à nous contacter en nous envoyant un mail à contact@actualitedeslutte.info.
Actualité au singulier, bien sûr, lutte au pluriel.
Vous pouvez nous envoyer vos initiatives,
vos appels à manifestation, rassemblements, vos textes d'analyse.
En n'oubliant pas de laisser vos coordonnées pour que nous puissions vous joindre et vous inviter dans l'actualité des luttes.
Parce que pour moi, la convergence des luttes, c'est ce qui amènera le changement. Pas en restant en autarcie là, sur nos petits, avec nos petites idées dans un petit coin, que ça changera les choses. Si on n'est pas ensemble, ça marchera pas.
Vous retrouverez toutes nos émissions sur actualitedeslutte.info.
Je pense pas qu'on aura nos places si on change pas le système radicalement.
Bonjour, vous êtes bien dans l'actualité des luttes. Du lundi au vendredi de midi et demi à 13h30 sur Fréquence Paris Pluriel 106.3 FM. Et aujourd'hui, en cette émission du jeudi 5 février 2026, nous revenons sur la situation du Rojava ces dernières semaines. Bonne écoute.
Kobané, cette petite ville du nord de la Syrie, frontalière avec la Turquie, restera le théâtre des actes héroïques des forces démocratiques syriennes, les FDS. Et souvenez-vous des YPG, cette unité militaire kurde exclusivement composée de femmes que le monde entier avait applaudi contre l'organisation État islamique, aussi appelée Daesh. Au lendemain de la fin de Daesh, les populations de cette partie de la Syrie, connue sous le nom de Rojava, on crée l'ANS. L'ANS, c'est l'administration autonome du nord-est syrien. Un projet politique, démocratique et féministe unique dans une région du monde dominée par les autoritarismes. Depuis 2016, la Turquie d'Erdogan a lancé plusieurs opérations militaires en Syrie pour officiellement repousser Daesh, mais surtout pour affaiblir les forces kurdes des YPG qu'elle considère comme terroristes. Elle contrôle du coup la Turquie aujourd'hui plusieurs zones du nord de la Syrie, comme la ville d'Afrin, via des milices pro-turques y menant une politique de turquisation et de déplacement forcé des populations kurdes et arabes. Alors, la chute de Bachar el-Assad et l'arrivée de l'islamiste de HTC, Ahmed al-Shara, ont rebattu les cartes. Alors, ça a poussé, du coup, les milices islamistes et pro-turques à attaquer les positions des FDS. Alors, à Raqqa, à Hassan Kocher, vice-président du conseil exécutif de l'ANS, de réagir à cela.
Le régime qui gouvernait depuis 50 ans ne reconnaissait pas l'existence des Kurdes. Même la langue kurde était interdite. Il y a eu beaucoup de jeunes, des gens sont tombés martyrs. C'était un régime nationaliste. Notre but est de garantir les droits du peuple kurde, mais aussi ceux des autres composantes ethniques dans la nouvelle constitution. En d'autres termes, il faut que le nouveau gouvernement soit composé de cette manière. Si le futur gouvernement est central, s'il ne reconnaît pas les droits des peuples, la diversité culturelle, les droits de la femme, il n'y aura pas de chance de réussite.
En somme, le Rojava ou la Hanès hein, est pris en étau entre l'agression turque au nord et l'incertitude du pouvoir, du nouveau pouvoir de Damas au sud.
Le gouvernement de transition vient de signer un accord historique avec les Kurdes. Aujourd'hui, le Rojava a ses propres institutions éducatives, sociales et sa propre force armée, les FDS. Cet accord est censé leur offrir plusieurs garanties. Concrètement, le droit à la citoyenneté et des droits culturels et linguistiques qui avaient été perdus notamment sous le règne du clan Al-Assad.
Et puis, avec cet accord, les Kurdes syriens se détournent d'un projet d'indépendance. Il est prévu que leurs institutions, civiles et militaires, soient intégrées au sein de l'État syrien.
Malgré les efforts des Kurdes pour parvenir à un accord avec le gouvernement, le prétendu cessez-le-feu a déjà été réduit à néant par l'envoi de milliers de forces spéciales turques et djihadistes, donc l'objectif déclaré est le massacre du peuple kurde. La Turquie et les groupes djihadistes qu'elle arme affichent ouvertement leur volonté d'exterminer le peuple kurde là où il se trouve. À l'issue d'une réunion organisée à Paris entre la Turquie, la Syrie et Israël sous l'égide des États-Unis, Ankara et Damas ont convenu de lancer une nouvelle phase d'offensive contre les territoires kurdes. Face à cette décision, la communauté internationale est restée passive, autorisant de facto le massacre des Kurdes.
L'offensive a commencé le 6 janvier après un deal entre le président Trump et le président turc Erdogan, donc avec le feu vert américain. Et on a vu près de 40 000 miliciens de l'armée arabe syrienne se mobiliser contre deux quartiers kurdes où il n'y avait que 450 000 réfugiés déplacés et qui étaient défendus depuis 2011 par quelques centaines de membres de la police locale. Donc c'est pour vous dire la demesure. Et effectivement, le quartier étant encerclé, les Kurdes, après 6 jours de combat, se sont retirés. Après, ils avaient décidé, sous la pression des Américains, de se retirer des localités à majorité arabe. Et ils sont retirés. Donc l'armée syrienne a repris ces villes qui avaient été libérées par les forces kurdes de la domination du joug de l'État islamique. Donc oui. Il y a eu plus de 15 000 jeunes Kurdes qui ont été tués dans ce combat et qui ont défait l'État islamique, qui ont fait prisonniers des dizaines de milliers de membres de Daesh qui étaient dans le camp. Donc ils font ça depuis maintenant 2014. Oui. Et les Kurdes sont placés devant un dilemme. Ils ne sont plus que dans les territoires à majorité kurde. Alors soit ils composent avec le régime en intégrant individuellement la nouvelle armée syrienne cas par cas, oui. Et soit ils basculent dans la résistance contre ce régime. D'ailleurs, le Kurde avait instauré un système alternatif où écologistes, féministes, où toutes les composantes de la population, les Arabes, les Assyro-Chaldéens, les femmes, tout le monde participait. Et on va vers un régime autoritaire où il n'y a plus que la voix du chef qui a nommé un parlement et qui dirige le pays d'une main de fer.
Kendal Nezan, on parlait aussi d'un pouvoir kurde répressif installé dans les régions arabes.
Le pouvoir répressif, certainement pas, mais les tribus arabes conservatrices n'étaient pas d'accord avec le modèle mis en place parce qu'on impliquait les femmes, parce qu'il y avait le conseil local. La démocratie, c'était une gêne. Maintenant, elles se sentent libérées. Vous savez, l'un des symboles de la résistance kurde, c'était une combattante, la statue d'une combattante kurde qui avait libéré Raqqa. La première chose faite par l'armée syrienne actuelle était de déboulonner cette statue de femme. Pour eux, c'est une hérésie. Et d'ouvrir la porte des prisons. On a été lâchés, on a été sacrifiés par les alliés de la coalition internationale. Les Américains, bien sûr, mais les autres se sont tués.
Pourquoi personne ne parle des massacres au Rojava? Depuis le 6 janvier, les milices islamistes HDS assignées au gouvernement syrien de Al-Jolani, aidé par le gouvernement fasciste turc d'Erdogan, attaque l'administration autonome du nord et de l'est de la Syrie. Les gouvernements turcs et
Tiens, il y a oppression, il y a résistance.
Nous sommes le 24 janvier 2026. Cette interview se fait juste après la manifestation qui a eu lieu à Paris. Après deux manifestations, l'une nocturne, donc juste après le début des massacres, et celle de mercredi dernier qui a été fortement réprimée par la police française.
Alors à Paris, il y a un comité de soutien pour le Rojava qui s'est monté parce qu'en tant qu'internationaliste, on doit aussi construire des actions qui vont permettre de visibiliser ce qui se passe, de faire parler aussi les médias parce que comme il n'y a personne aujourd'hui qui en parle, il y a aussi un enjeu de réussir à visibiliser cette question, à faire ce qu'on peut faire pour dénoncer la situation et aussi dénoncer finalement la complicité de l'État français. Et donc dans ce comité, on veut lancer des actions, on veut aussi faire des cortèges internationalistes dans les manifestations. L'initiative, c'est vraiment de construire une voix des internationalistes qui soutiennent le Rojava, qui défendent la révolution des femmes.
Un comité de soutien en trois jours, c'est très très rapide. Donc là, il y a une première réunion. Est-ce que tu peux nous dire comment ça s'est passé? Alors déjà, revenir sur comment l'initiative est arrivée. Ce qui s'est dit globalement ce soir et la suite.
Il y a des organisations qui étaient en soutien avec le Rojava, donc qui étaient déjà en lien et qui forcément discutaient de comment ouvrir les perspectives. Et donc en voyant que finalement, il y avait une difficulté à massifier sur la question du Rojava, il y avait aussi l'enjeu d'essayer d'investir de nouvelles personnes, d'avoir à la fois des organisations mais des individus qui peuvent rejoindre un moment pour discuter des perspectives, donc un moment qui visait à la fois faire le point sur ce qui se passe au Rojava, sur pourquoi il faut agir, et à la fois réussir à trouver des perspectives concrètes dans lesquelles agir ensemble. Et donc c'était vraiment ça l'initiative. L'initiative, c'était se réunir, donc que ce soit des organisations, que ce soit des individus, pour essayer de créer des perspectives collectives.
Du coup, il y a les rendez-vous prochainement. Ça va être une soirée de soutien pour la caravane des peuples. Et aussi un prochain rendez-vous, une prochaine réunion ouverte de ce comité. Vous pouvez voir sur les comptes Instagram de Young Struggle, Zora et Rise Up for Rojava France. Et il y aura une réunion, je pense, toutes les semaines de ce comité qui organise globalement du soutien à la caravane des peuples, des actions, des rassemblements. Et voilà.
Moi, je m'appelle Yval et je viens du Kurdistan occupé actuellement par la Turquie, donc le Bakour. Ce dernier mois, on s'est mobilisé particulièrement pour le Rojava, donc, qui est la partie autonome du Kurdistan syrien.
À l'est de l'Euphrate.
Oui. Donc ce qui se passe là-bas, ça a commencé avec des massacres dans les quartiers d'Alep, des massacres de quartiers occupés. Habité principalement par des Kurdes. Ça s'est divulgué aux côtés du Rojava, justement. Et les massacres sont en cours. Il y a eu. Ça fait 8 jours que le Rojava est assiégé. La population n'a plus d'accès à l'eau courante, n'a plus d'accès à l'électricité, ne peut plus communiquer et est actuellement affamée. Pour rappel, on est en hiver et là-bas, l'hiver est assez rude. Des enfants sont déjà morts. Aujourd'hui, on en a annoncé 4 par Iva Soj, qui est l'équivalent de la Croix-Rouge kurde. Donc, on se mobilise ici en France pour faire entendre ces voix-là, parce que bah justement, dans cette zone-là, il y avait aussi des prisons de djihadistes, donc avec des camps, avec des familles, etc., de l'État islamique. Ces camps-là sont libérés par le gouvernement transitoire syrien, actuellement.
Quand tu dis libéré, ça veut dire quoi ?
Donc, ces gens-là attaquent ces prisons pour récupérer aux forces démocratiques syriennes et pouvoir les libérer. Donc, on ne sait pas trop ce qu'ils vont faire d'eux. Certains participent justement aux attaques au Rojava. On a vu des drapeaux du Daesh être brandis. Donc, la situation est assez inquiétante. Et les forces démocratiques kurdes préviennent depuis une dizaine d'années déjà de ces prisons, de ces dangers-là que pose... pour la région, parce qu'ils sont pas aptes en fait à les garder, parce que ça reste une région autonome, c'est pas un État, on n'a pas les forces humaines et techniques pour pouvoir faire ça. Sauf que ça n'a pas été pris au sérieux ni par l'Occident ni par les pays aux alentours. Donc là, actuellement, ça pose une crise énorme pour la zone, mais aussi pour le monde entier à nouveau. Ils sont en train d'être évacués par les États-Unis aujourd'hui vers l'Irak. Donc on ne sait pas ce qui adviendra d'eux, mais une majorité est syrienne et irakienne. Il y a également au niveau du Kurdistan la situation au Rojilat, donc avec les soulèvements qui se passent en Iran.
Donc c'est le Kurdistan iranien.
Exactement. Dans cette zone-là, il y a souvent des soulèvements. Il y a eu des soulèvements auparavant aussi qui n'ont pas été trop soutenus par le reste de la population iranienne. Donc il y a eu des répressions énormes envers la communauté kurde, qui est minoritaire aussi là-bas. Il y a des choses qu'on entend beaucoup en Occident. On entend parler de Mahsa Amini, par exemple, et du régime islamique qui l'aurait tuée parce qu'elle ne portait pas son voile correctement. Mais en réalité, elle s'appelle Jina Amini. Jina, de son nom kurde, parce qu'en Iran, c'est interdit d'avoir un nom kurde. Et on ignore beaucoup l'histoire de Jinjan Azadi, qui découle aussi... de ces révoltes, mais qui ont été créées, ce slogan existe depuis les années 2000. Rien de nouveau, ça a été assez repris par le régime iranien, réutilisé, enfin le régime, non, la révolution.
Par l'Occident qui veut à tout prix faire tomber le régime iranien.
Exactement. Donc, il y a aussi ces luttes-là sur place. On n'a pas trop de nouvelles, malheureusement, du Rojilat. Mais on sait qu'il y a des massacres en cours, c'est assez inquiétant. Là, on essaie de se mobiliser ici pour essayer de faire entendre les voix, que la France puisse retenir sa position d'il y a 10 ans. On entendait parler dans tous les médias des Kurdes qui nous auraient libérés, des mains de Daesh qui combattent sur place, etc. Ces héros qui étaient très idéalisés, certes, mais quand même qui étaient sur place pour faire le travail. Aujourd'hui, on adopte une position inverse, de soutien de Jolani de son gouvernement, qui, pour rappel, était sous mandat d'arrêt jusqu'à il y a quelques années, donc qu'il puisse être à la tête d'un gouvernement et participer aux événements internationaux, c'est aussi sidérant en tant que Kurde de voir.
Le mois de décembre dernier, il était encore sur la liste internationale des terroristes internationaux. Il a été enlevé de ses listes dès qu'il a pris le pouvoir. Revenons sur le Kurdistan syrien, donc le Rojava. Il me semble qu'il y avait un accord qui faisait que le Kurdistan occupé par la Syrie était plus ou moins autonome, en tout cas que les territoires à l'est de l'Euphrate étaient autonomes. Quel a été le déclencheur de cette volte-face ?
En termes de déclencheur, moi je pense qu'il y a des choses qui sont dites politiquement, mais qui ne sont pas forcément crues. Dès l'arrivée au pouvoir de Jolani, les Kurdes étaient inquiets. Donc c'était, je pense, pour calmer surtout les foules et surtout que Bachar venait à peine de partir. Donc c'était peut-être pour calmer l'inquiétude naissante de comment va se passer cette situation pour les Kurdes. Mais en réalité... on s'y attendait parce que on voit le profil. Il vient d'Al-Qaïda, il soutient Daesh, donc finalement c'était pas surprenant pour nous. On s'y attendait. Et justement, il y a eu appel à soutien, il y a eu déjà des manifestations, etc. Mais c'est arrivé assez, assez brutalement, là, à partir du décembre, quand ça a commencé à attaquer les quartiers d'Alep. Et c'est quelque chose auquel on s'y attendait, mais ça allait quand même extrêmement rapidement.
Je reviens sur la question précédente. Pourquoi ?
Il y a différentes sources, mais il y a une propagande qui tourne actuellement contre les forces démocratiques kurdes en disant que c'est eux qui occupaient la zone et qui libèrent en fait cette zone de cette occupation, que la population serait heureuse d'être libérée et qu'ils sont pour l'union de la Syrie et que les Kurdes vont pouvoir vivre librement en fait dans cette nouvelle Syrie. D'où le fait qu'ils n'auront pas besoin des forces démocratiques kurdes, enfin syriennes, sur place. Mais en fait, de ce qu'on voit, c'est, ça résulte en massacre, finalement. Donc la propagande, je ne sais pas jusqu'à où elle peut être écoutée. Je sais qu'il y a des médias assez mainstream de la région, comme Al Jazeera, comme Middle East Eye, ces médias-là qui partagent beaucoup de choses, qui portraient le FDS comme les forces démocratiques syriennes comme terroristes qui occuperaient la zone et qui attaqueraient les civils. Mais en fait, quand on regarde un petit peu les retours qu'il y a de journalistes vraiment sur place, de personnes travaillant dans les droits humains, on voit que la réalité est tout autre.
Comment on peut expliquer la chute aussi rapide des YPG, donc des forces armées kurdes? Tu pourras préciser, mais actuellement, il n'y reste plus que le secteur de Kobani qui serait aux mains des forces kurdes.
Parce que justement, le soutien a shifté de sens. C'est que maintenant, les États-Unis, la France soutiennent le gouvernement transitoire syrien. Donc de ce côté-là, déjà ils ont les moyens, parce que ça reste un État, que ce soit les moyens humains ou techniques vraiment. Mais en plus, il y a aussi l'aide de la Turquie aussi, qui envoie des forces sur place pour attaquer le Java. Il y a des vidéos de bataillons turcs qui réclament cette zone, justement ça c'est une autre propagande, comme turque, qui doit appartenir aux Turcs. Et donc c'est très soutenu, c'est bombardé, ils envoient des drones, ils envoient des aviations, enfin il y a toute une force déployée sur la zone. Et il faut rappeler que les forces démocratiques syriennes, ils ont une technique de défense plutôt guérilla, mais en termes de techniquement, logistiquement, ils sont un peu limités aussi.
Oui, donc c'est une guerre asymétrique. Est-ce que les forces turques en ont profité pour relancer une attaque contre les Kurdes du sud-est de la Turquie? Et est-ce que ça remet en cause le processus de paix, entre guillemets, entre le PKK et la Turquie?
Il faut savoir que l'existence même des Kurdes, au-delà de terre kurde qui s'appellerait Kurdistan, l'existence même de Kurdes est un problème en Turquie. Et c'est nié, en fait. Les Kurdes n'existent pas, ou alors ils sont animalisés, ou alors c'est des Turcs des montagnes, ou alors, enfin, il y a toujours des choses qui nient l'existence. Et pour eux, c'est impensable que le Rojava puisse tenir. Donc, bien sûr, ils vont déployer toutes les forces pour qu'elles n'existent plus.
Sachant que les Kurdes de Turquie représentent 25% de la population, de l'ensemble de la population de Turquie, et qu'en Syrie, ça représente 10 à 15%.
Donc oui, la majorité des Kurdes sont en Turquie, et il y a une répression énorme de ce côté-là, qui est toujours existante, et on le voit aussi à travers l'emprisonnement de prisonniers politiques, tout ça, donc... c'est assez inquiétant. Et puis là, actuellement, il y a des personnes qui essaient de traverser les frontières pour justement rejoindre le Rojava. Donc il y a les forces turques qui sont en train de leur tirer dessus à une population civile. Donc c'est assez inquiétant, d'où le fait qu'il y a des caravanes actuellement qui veulent aller aussi sur place pour pouvoir aussi être là avec la population civile, peut-être empêcher ou essayer de limiter les forces turques de tirer sur ces gens-là. Et par rapport, pour revenir au PKK, le sujet c'est que effectivement ça remet en cause, parce que Jordan aurait annoncé justement durant les attaques que ce processus ne peut pas continuer tant que le Rojava est attaqué. Et en fait, il y a quelque chose qui est très dit dans les milieux kurdes, de le Rojava c'est notre ligne rouge. Et si on la franchit, bah, tout le monde se soulève, en fait. Il n'y a pas de limitation de frontières de ce côté-là. Toutes les Kurdes sont mobilisées de ce côté.
Que ce soit d'Irak ou d'Iran, les Kurdes font la route vers le Rojava pour aider. Donc du coup, sur le Rojalat, on va revenir sur les caravanes plus tard. Depuis la semaine dernière, on n'entend plus parler de la situation en Iran. On parle d'une centaine de morts. La répression, est-ce que la répression a été plus dure au Kurdistan qu'ailleurs, ou est-ce que on est sur un même niveau de répression? Et surtout, qu'est-ce qui s'est passé entre le mouvement Femmes, Vie, Liberté, comme on l'entend ici en Occident, et aujourd'hui?
Alors, par rapport au Rojava, du coup, oui, effectivement, on n'a pas de nouvelles. Mais par rapport à ce qu'on sait de ce qui s'est passé auparavant, lors des soulèvements, c'est qu'effectivement, les zones kurdes sont d'autant plus ciblées, puisque c'est une minorité déjà assez réprimée sur place. Donc, on est inquiet de ça, inquiet de ce qu'on va apprendre, en fait, quand on aura des nouvelles. Et on s'attend sûrement à ce qu'il y ait plus de répression de ce côté-là, mais je pense que globalement, ça doit être compliqué pour toute la population iranienne actuellement.
Quelles sont les répercussions au Kurdistan irakien? Est-ce que tu as quelques informations là-dessus ou...
Par rapport au Kurdistan irakien, les seules informations que j'aurai, c'est vraiment le fait que il y a des mobilisations déjà énormes sur place également. Donc les manifestations continuent tous les soirs. Et également, Barzani, qui est à la tête de cette région-là, a envoyé des forces antiterroristes sur place au Rojava. Et il est en train d'essayer de négocier des accords, etc. Il s'est déplacé en Italie aussi il y a quelques jours pour en parler. Donc on attend d'avoir des nouvelles et on espère qu'il y aura aussi une solution qui se profilera de ce côté aussi.
Beaucoup disent que les Kurdes sont alliés aux Américains, aux impérialistes, à Israël, etc. Qu'est-ce que tu aurais à leur dire?
Ben, je trouve que c'est... Déjà, premièrement, moi, personnellement, mon humanité n'a pas de variable. Donc, si je vois des gens massacrés, je vais me dire qu'ils sont massacrés. Donc, à partir de là, si une population civile subit tout ça, le fait qu'on ferme les yeux parce qu'on pense qu'il y aurait une certaine intervention états-unienne, ça me paraît totalement injuste. Mais au-delà de ça, c'est pas la réalité. C'est que quand on regarde là actuellement, Jolani a été profondément soutenu par les États-Unis, ses alliés également, donc la Turquie, pour monter au pouvoir. Israël. Donc le gouvernement parle beaucoup du Kurdistan, mais n'a jamais soutenu le Kurdistan. Il n'y a jamais eu aucune action entre les deux. Il y a beaucoup de rancœur des deux côtés, je trouve, qui sont la plupart du temps des propagandes, en fait.
Une rancœur entre qui?
Entre la population kurde et les populations arabes. C'est quelque chose que je vois et que j'observe assez régulièrement. D'un côté, avec ma propre population, je vais avoir quelque chose d'assez complexe parce qu'il va y avoir une propagande du panarabisme qui va être les Arabes soutiennent les Arabes, ce qui n'est pas vrai quand on regarde le cas de la Palestine en plus. Ils vont avoir toute cette propagande syrienne qui va être diffusée et cette haine des Kurdes qui va être profondément ancrée. Donc forcément,
La population est dégoûtée de ça. Et en plus, ils ont une propagande israélienne aussi qui est jouée sur eux, de le gouvernement israélien qui annonce son soutien mais qu'il ne fait jamais. Et également le fait que, historiquement, Saddam a soutenu la Palestine. Donc, ils ont une statue qui est là-bas. Et nous, Saddam nous a massacrés en Irak, notamment à Lecce. Donc, forcément, la population a ces rancœurs-là. Mais encore une fois, ce n'est pas justifié. Ça reste de la propagande. Parce que quand on regarde de l'autre côté, la Turquie, ce qu'elle fait, c'est exactement la même chose. De dire qu'elle soutient la Palestine, mais reste l'un des principaux partenaires commerciaux d'Israël. Donc, je pense qu'au-delà de ce qui est dit dans les médias, il faut aussi regarder les chiffres, il faut regarder les actes, parce que les intentions, soi-disant, sont annoncées et on essaie de nous portrayer Israël et Turquie comme ennemis, alors qu'en réalité, c'est des partenaires commerciaux et les deux sont liés aux États-Unis. Et c'est ça qui est inquiétant aussi, c'est qu'ils arrivent à faire marcher leur propagande pour que les populations soient plus focalisées contre les uns les autres que envers ceux qui les répriment.
Du coup, si vous voulez des ressources par rapport au soutien entre la Palestine et le Kurdistan, Azadi, dans son livre « Leçon kurde, les damnés des montagnes », il explique déjà en quoi la lutte kurde est une lutte décoloniale. Et il met en avant aussi les relations qu'il peut y avoir avec la Palestine. Il sera une source un peu plus développée sur ce sujet-là et en quoi c'est important que les peuples se soutiennent entre eux.
D'ailleurs, est-ce que le PKK, les YPG ont des liens avec les partis palestiniens, FPLP, FDLP
Alors, normalement, ils ont des liens en interne, mais ce n'est pas quelque chose qui est ouvertement communiqué non plus.
Il y a aussi une brochure et des articles écrits par l'ADM, du coup l'Academy of Democratic Modernity, qui ont écrit des articles sur les liens historiques de la résistance palestinienne et de la résistance kurde, notamment en parlant des nombreux résistants kurdes qui sont allés s'entraîner militairement avec des résistants palestiniens dans les plaines de la Bekaa au Liban.
Donc lors de la création du PKK, qui était normalement le groupe armé kurde du côté du Bakoul, donc le Kurdistan en Turquie. Comme tu disais, ils sont alliés en Palestine pour combattre et pour apprendre des techniques de combat et de résistance avec les Palestiniens. Et il y en a beaucoup qui sont tombés martyrs parmi eux. Donc la lutte commence aussi ensemble et on l'oublie beaucoup trop souvent avec des futilités comme une statue qui pourrait être présente alors qu'on lutte ensemble en réalité.
Il y a 10 ans, on a quand même, on avait aussi que Kobané qui restait à l'époque, et on a continué à manifester et on a eu du soutien. Il y a eu ces mobilisations en fait ont eu un effet qui ont fait en sorte que ça a bougé. Il y a eu des interventions, il y a eu du soutien de l'Occident. Kobané, c'est à partir de Kobané que le Rojava s'est libéré. Donc là, actuellement, c'est ce qu'on essaie de faire aussi, en se mobilisant, de faire bouger les choses. Bien sûr qu'individuellement, c'est assez compliqué, mais quand on commence à, notamment, en revenant pour les caravanes, à aller sur place pour protéger la population civile, à faire entendre les voix, en fait, notre citoyenneté est importante aussi. Le fait qu'il y ait des citoyens européens qui vont là-bas, ils ont une protection supplémentaire. Si c'est des citoyens turcs, c'est leur propre population. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent, entre grands guillemets, mais quand même. Et quand c'est des citoyens d'ailleurs, ils ne peuvent pas. Il y a une protection qui est présente. Et justement, protéger les populations, ça passe aussi juste en étant là. Et ça, c'est assez important. Et c'est pour ça qu'on a besoin de la mobilisation de personnes extérieures. Parce que dans nos manifestations, on va voir beaucoup de Kurdes, parce qu'on est très nombreux quand même comme population. On a, aux dernières estimations, ils disaient entre 40 et 60 millions. Mais on a besoin d'une mobilisation externe pour avoir une protection, parce qu'on n'a pas de pays et on n'a pas une quelconque protection étatique derrière nous, nulle part.
Sur les caravane, ça s'est monté très rapidement. Je crois qu'en 2-3 jours, ça s'est monté. Malheureusement, c'est surtout d'Allemagne, enfin des pays germanophones, l'Allemagne principalement, qu'il y a des gros départs. Il y en a quelques-uns en France, ici à Lyon et Marseille. Alors déjà, comment ça s'est monté et est-ce que tu peux nous en dire plus ?
Bien sûr, du coup, les caravanes, c'est une initiative qui a été prise internationalement, en Europe surtout, il y a 3-4 jours, et ça s'est organisé très rapidement. Donc, hier, il y a eu la première caravane de France qui est partie, à Lyon et à Marseille. Et la veille, il y avait eu du coup une caravane d'Allemagne. En Allemagne, ils sont à peu près 25, une trentaine à partir. Et en France, on a été une quinzaine. Il y a aussi des voitures d'Espagne et d'Italie qui partent, et de Suisse. Et donc, ce qu'on peut voir, c'est qu'il y a une mobilisation très rapide en fait, de gens internationalistes qui se sentent connectés en fait, aux gens là-bas. Et aussi, qui voient le Rojava et juste la résistance aussi que mène tout le peuple kurde et les autres peuples qui suivent, par exemple, le Rojava, qui voient ça comme une boussole. Et donc, je pense que c'est ça, le but de ces caravanes, c'est vraiment de montrer une solidarité très rapide, d'aller là-bas, d'essayer de tout faire, de médiatiser, pour montrer qu'en fait, les jeunes européens, parce que c'est surtout des jeunes qui partent, en fait, sont dans le même bateau que les personnes là-bas et sont absolument concernées. C'est comme les flottilles pour Gaza. Si un peuple là-bas est attaqué, nous aussi on est attaqué et on ne peut pas laisser ça passer. Parce que leur oppression concerne absolument tout le monde et c'est ça en fait l'internationalisme. C'est pas juste de la solidarité ou de la pitié ou de l'humanitaire. C'est vraiment de l'amitié en fait, avec de l'amitié des peuples et aussi dans le but de construire une internationale des peuples solidaires, les peuples kurdes, les peuples arabes en fait, le but aussi de la révolution qui est menée au Rojava. C'est de la cohabitation entre tous les peuples et qu'ils ne soient pas manipulés par la propagande des États qui cherchent à les monter les uns contre les autres.
Il y a une dizaine d'années, il y avait déjà eu, de manière beaucoup plus restreinte, des départs de militants occidentaux vers Kobané. Est-ce que votre objectif, c'est de faire un peu la même chose qu'il y a une dizaine d'années? Avec quel objectif? Et est-ce que tu peux nous rappeler ce que ça avait donné, ces départs d'il y a 10 ans?
Là, l'objectif de ces caravanes, c'est principalement d'essayer de faire pression à la frontière. Déjà de médiatiser tout le voyage pour montrer qu'il y a des jeunes qui y vont en 3 jours, qui se motivent. Ensuite, là-bas, c'est vraiment envoyer un message de force aux populations qui résistent et essayer de faire pression à la frontière, de montrer qu'on est là et que ça a un impact médiatique suffisant pour que ça puisse aider des passages à la frontière et que les gens puissent, les Européens qui partent aussi, puissent aller traverser et aller aider là-bas au Rojava. Il y a aussi d'autres départs qui ne sont pas dans ces caravanes. Par exemple, il y a une commune internationaliste au Rojava où il y a une vingtaine d'internationalistes du monde entier qui militent là-bas, qui apprennent à connaître les gens, à connaître ce qui se passe et comment aider et comment s'en inspirer. Donc il y a eu ces départs, et là aujourd'hui il y a des départs pareils de toute l'Europe qui vont rejoindre et qui vont rejoindre aider la lutte là-bas, en plus de la caravane. Donc il y a vraiment ces deux côtés-là, et ça a toujours été un support énorme internationaliste au Java, qui est d'ailleurs un mouvement internationaliste à la base, qui est fondé pour propager ces idéaux, pour protéger cette résistance envers l'impérialisme et le capitalisme dans tout le monde entier. Donc ça apporte vraiment un message très clair, comme il y a 10 ans.
Vous nous disiez qu'il y avait déjà de la répression en Turquie actuellement pour ceux qui voulaient rejoindre le Rojava. Est-ce que, alors déjà, vous y allez comment, et est-ce que vous attendez à quel type de résistance de la part de l'État turc?
Donc là, les personnes qui ont rejoint les caravanes vont se retrouver à Vienne demain. Et il va y avoir un départ collectif de toutes les caravanes ensuite de Vienne vers la frontière turque. Et il y aura potentiellement un deuxième convoi qui va partir aussi de France et je pense d'Allemagne, parce qu'il y a de plus en plus de gens qui ont répondu à l'appel et qui veulent venir. Voilà, et du coup, à Vienne, ensuite vers la frontière turque, on s'attend à de la répression, bien sûr, mais le but est de montrer aussi que rien n'arrêtera la caravane, qu'on va tout faire jusqu'à Kobané, comme les flottilles pour Gaza qui ont continué, quitte à se faire arrêter par Israël. En fait, le but, c'est de montrer qu'il n'y a rien qui arrête. Et voilà, je pense qu'il peut y avoir beaucoup de répression en Turquie, parce que globalement, la Turquie n'a pas d'intérêt, enfin le gouvernement turc fasciste n'a pas d'intérêt à ce que une solidarité internationale soit montrée. Mais en même temps, c'est possible aussi avec le soutien international, toute la presse, tous les médias. On essaye d'avoir des personnalités publiques qui vont rentrer dans ces caravanes. Donc on essaye, voilà. Sinon, après, il y a des journalistes qui sont en chemin aussi, qui sont déjà dans les caravanes, il me semble. Le but, c'est d'avoir une pression médiatique assez forte pour que la Turquie ne puisse pas trop réprimer.
Comment on peut rester au courant de ce qui se passe?
Eh bien, il y a le compte Insta et le site internet de People's Caravan pour toute l'Europe. Après, pour la France spécifiquement, il y a le compte Rise Up for Rojava France.
À la même date où nous avons réalisé cette interview, le 24 janvier, plus de 120 personnes issues de différents pays européens s'étaient rassemblées devant les locaux viennois du Parti démocratique kurde, DEM, expatrié en Autriche. Elles ont ensuite pris la direction de la ville de Kobané, en Syrie, afin de soutenir les FDS de cette région semi-autonome du nord-est du pays, attaquée par le pouvoir en place. C'est à la suite d'une manifestation à la frontière turco-syrienne, le vendredi 31 janvier, que la caravane des peuples est arrêtée.
Bonjour, j'ai 26 ans, je viens de France, je viens de Lille. Si aujourd'hui vous voyez cette vidéo, c'est que j'ai été arrêté par l'état terroriste turc qui encercle aujourd'hui, avec les milices d'HTS, de l'ancien chef d'Al-Nusra, Jolani, ils encerclent Kobané, où en 2016 les Kurdes ont été les seuls à rester et ont tenu en échec Daesh pour la révolution qu'ils ont menée vaillamment pour les minorités, qu'elles soient chrétiennes mais surtout yézidis. Et aujourd'hui, ces personnes-là ont besoin d'aide, donc si vous pouvez faire la moindre chose, il faut absolument les aider. Je pense que c'est vraiment important de faire quelque chose pour cette révolution d'un peuple, d'où a émergé quelque chose de magnifique au milieu du chaos créé par l'impérialisme. Continuons de lutter, la tâche va être dure, mais on va y arriver.
Au total, c'est 29 jeunes issus de différents pays d'Europe, dont la France, qui ont été arrêtés par la police turque sur la route de Kobané et qui ont été emmenés à Istanbul afin d'être expulsés de Turquie vers leur pays d'origine. Le jour précédent, le 30 janvier, c'est une délégation de journalistes et de militants de 19 personnes qui avaient déjà été arrêtées près de la ville turque de Mardin avant d'être expulsées vers l'Allemagne.
Des véhicules des forces kurdes défilent à Asaké. Cette ville du nord-est syrien constitue l'un des derniers bastions kurdes de Syrie. Un face-à-face tendu oppose ses combattants aux troupes du gouvernement de Damas stationnées de l'autre côté de la route. Mais pour l'heure, le cessez-le-feu tient.
S'il n'y a pas d'attaque contre nous, nous n'attaquerons personne. Mais si une attaque se produit, nous avons le droit de nous défendre. Pas seulement nous-mêmes, mais aussi notre nation.
Samedi, la trêve a été prolongée de 2 semaines, soit jusqu'au 9 février. Elle avait été décrétée mardi, après 2 semaines de combats meurtriers entre les Kurdes des forces démocratiques syriennes et l'armée de Damas. Des affrontements qui ont permis à cette dernière de conquérir des pans entiers du territoire. L'objectif de l'extension du cessez-le-feu, permettre le transfert de 7000 membres de l'État islamique, jusqu'ici détenus dans les prisons contrôlées par les Kurdes.
Alors que l'armée américaine se charge d'emmener les djihadistes vers l'Irak, les autorités syriennes remettent des civils en liberté.
Le 29 janvier dernier, un accord de cessez-le-feu global était conclu entre les FDS et le régime intérimaire syrien. Il impliquait la cessation de toutes les activités militaires au point de contact, le retrait des FDS de toutes leurs forces des villes d'Ezeké et de Kamcho, et le retrait des HTS de toutes ses forces vers Shadadi, une ville du sud d'Ezeké. Le 2 février, une nouvelle phase de cet accord était mise en œuvre avec l'envoi par le HTS d'une délégation du ministère de l'Intérieur à Asaké. C'est alors une quinzaine de véhicules, avec entre 100 et 120 officiels du ministère de l'Intérieur du gouvernement de transition syrien autoproclamé qui est arrivé à Asaké. Un couvre-feu a été déclaré dans la ville de 6h à 18h et la délégation, dont le but officiel est de superviser l'intégration des forces de sécurité locales au ministère de l'Intérieur, a été escortée par les forces de sécurité internes des FDS. Noureddine Ahmed a été désigné officiellement gouverneur d'Asaké par la NES et il s'est rendu à Damas pour discuter avec le gouvernement autoproclamé. Ahmed était le commandant du bureau des relations publiques des FDS et était actif au sein des institutions de la NES depuis 2012. Néanmoins, et même si la seconde phase de l'accord a débuté, l'aide humanitaire est toujours empêché d'entrer dans Kobané. Un convoi qui apportait du fuel, des médicaments, du lait, des produits pour bébés à la population de Kobané a été empêché de passer la frontière entre la Turquie et la Syrie dans le district de Souroup, d'Ofa. Les entretiens menés avec les représentants de l'administration autonome démocratique du Nord et de l'Est de la Syrie sont unanimes. Même si l'accord ne correspond pas pleinement aux souhaits de l'administration, l'objectif principal de prévention du génocide a été atteint et doit maintenant être garanti par des efforts continus. Ainsi, pour terminer cette émission, nous vous diffusons la déclaration du commandant en chef du SDF, Mazloum Ebdi, sur le cessez-le-feu et la poursuite de la lutte. Dans cette déclaration, Mazloum Ebdi partage les principaux points de l'accord récemment conclu avec le gouvernement intérimaire syrien, soulignant que bien qu'il soit limité, il représente un succès de la résistance des peuples du Rojava et de la pression internationale des actions de solidarité. Nous avons tenté à plusieurs reprises de mettre fin à cette guerre. Il y avait un risque qu'ils commettent un génocide contre notre peuple. Il y avait un grand projet et pour l'empêcher, nous avons fait tout ce que nous pouvions. Nous savons que notre peuple a souvent été bouleversé. Cependant, malheureusement, nous avons constaté que la position des forces internationales n'était pas d'essayer de mettre fin aux attaques. C'est pourquoi nous avons jugé nécessaire de prendre une décision. Mettre fin aux attaques grâce à cet accord pour mettre fin aux plans de génocide qui ont été élaborés contre notre peuple, pour pouvoir prendre position contre cela et être capable de défendre les droits de notre peuple. Tout d'abord, je voudrais dire ceci. Il est stipulé dans l'accord que, quelle que soit la ville concernée, l'armée syrienne ne sera pas autorisée à entrer. C'est un point essentiel tant pour la région de Jazeera que pour Kobané.
De même, le rôle des forces de défense interne dans les villes et les villages kurdes sera entre les mains de nos forces de sécurité, accompagnées d'une délégation du ministère syrien de l'Intérieur, avec lequel ces structures seront intégrées. Ce processus débutera le 2 février et se poursuivra jusqu'à ce que l'intégration soit terminée. Ces forces auront une mission spécifique liée à l'intégration. Ce n'est pas qu'ils seront chargés de surveiller toute la ville. Leur travail se limitera à des tâches spécifiques et ne durera que jusqu'à ce que l'intégration soit terminée, en particulier pour les unités de défense interne. Ce n'est qu'alors qu'ils cesseront de fonctionner. Ces agents qui viendront coordonneront dans une ligne et un cadre spécifique. Il s'agira uniquement de tâches administratives. Cela signifie en aucun cas que nous abandonnons nos tâches administratives. Ils effectueront ce travail jusqu'à ce que leurs tâches administratives et celles liées à l'intégration soient terminées. C'est pourquoi nos concitoyens peuvent être rassurés. Cela ne posera aucun risque pour la sécurité. Notre peuple doit rester proche de ses propres forces, chacun sur son propre territoire, et soutenir les institutions de notre administration afin que cette étape puisse être menée à bien avec succès. Un autre point essentiel de l'accord était la défense autonome des régions kurdes, dans tous les sens du terme. Du point de vue militaire, sécuritaire et administratif. Même dans l'arène politique, nous pouvons dire que nous protégeons tout ce que nous avons accompli, même si ce n'est pas dans la mesure où nous le souhaitions et le souhaitons. Cela reste un sujet de lutte qui va se poursuivre. Cependant, des progrès ont été faits. Par exemple, je peux dire ceci avant tout. D'un point de vue éducatif et culturel, les domaines dans lesquels nous avons investi des efforts seront défendus. D'un point de vue administratif, l'ensemble de l'administration des régions kurdes, tant Jazeera que Kobané, dans tous les sens du terme, seront composés des peuples de la région. Je dirais même que ceux qui ont cette responsabilité aujourd'hui la conserveront, mais sous cette nouvelle forme. Et du point de vue de la sécurité, cela sera garanti par nos forces, qui ne feront désormais plus qu'un avec le ministère syrien de l'Intérieur. Leurs représentants seront les mêmes qu'aujourd'hui. Ils continueront d'occuper leurs fonctions. Concrètement, cela signifie que les institutions que notre peuple a construites depuis la Révolution, dans les régions kurdes et dans les villes et les villages kurdes, ne vont pas changer, elles vont continuer. Et ce n'est donc pas une mince affaire. Cela signifie que toutes les réalisations de la révolution seront défendues. Cependant, lorsque nous parlons des objectifs plus ambitieux pour lesquels nous nous sommes battus, tels que le statut officiel et de nombreuses autres questions, de nombreux aspects restent insuffisants et nous devons donc continuer à nous battre jusqu'à ce que nous les obtenions. Toutes les forces militaires, par exemple celles de la région de Jazeera, doivent quitter la ville. Elles doivent s'éloigner de la région de Jazeera en se séparant par une grande distance. Il en va de même pour Kobané. Les forces du ministère syrien de la Défense qui sont arrivées dans la région doivent se retirer de la région. De la même manière que nos forces doivent quitter les villes puisqu'elles sont venues de l'extérieur pour défendre les villes. Elles doivent quitter les villes et se poster à proximité des villes dans leur propre base. Ils resteront dans leur complexe militaire. Je pense que ces mesures qui vont être prises mettront fin au blocus et à la situation actuelle. À présent, le peuple kurde a montré une position dont on peut être vraiment fier, avec une partie du Kurdistan en danger. Et les Kurdes se souvent à l'unisson pour montrer leur unité dans la défense de ce territoire. Nous avons vu que cette fois-ci, elle était beaucoup plus forte qu'à d'autres moments. Nous avons vu que l'ensemble du peuple kurde, non seulement les Kurdes du Rojava, mais aussi des trois autres parties du Kurdistan et en dehors de notre territoire, que tout le monde était avec nous. Cela nous a donné beaucoup de force et je peux dire que la position du peuple kurde a permis un changement dans l'opinion publique mondiale, générant une pression pour mettre fin à cette guerre et prendre ses mesures. Ils ont eu une influence énorme. C'est pourquoi je remercie et salue chacune et chacun des personnes qui sont descendues dans la rue pour manifester, car elles ont joué un rôle très important dans ce moment historique. En vérité, autour de cette dernière résistance du peuple kurde, nous avons été témoins de l'unité des peuples kurdes et des partis politiques, et c'est une source de fierté. De 2011 à aujourd'hui, nous, le peuple du Rojava, nous avons été ensemble. En vérité, en particulier le peuple kurde du Rojava, de toutes les régions, qu'il s'agisse d'Afrin, de Kobané, de Jazira ou d'Alep, ils n'ont pas abandonné. Ils étaient toujours en première ligne, tout comme nos forces militaires. Mais nous avons lutté, nous nous sommes sacrifiés, nous avons été blessés, nous avons donné ensemble des martyrs. Nous avons traversé ensemble de nombreuses situations difficiles. Au début de la révolution, nous avons été confrontés aux attaques de Daesh, aux attaques de l'État turc et beaucoup d'autres choses. C'était encore un de ces moments difficiles que nous avons traversés ensemble. Et nous avons toujours fini par l'emporter. Peu importe le nombre de difficultés auxquelles nous avons été confrontés, nous avons toujours réussi à nous en sortir. Nous avons surmonté la douleur et maintenant, une fois de plus, nous franchissons une nouvelle étape. Cette fois-ci, nous sortirons également vainqueurs de notre lutte politique visant à récupérer les droits du peuple kurde par le biais de méthodes politiques. Nous continuerons ensemble jusqu'à ce que nous récupérions nos droits. Nous savons que beaucoup de gens ne sont pas satisfaits de cet accord. Les espoirs de notre peuple sont très grands et les nôtres le sont également. Nous ne considérons pas non plus cela comme une grande victoire. Je ne peux pas dire moi-même que nous avons accompli quelque chose de grand. Cependant, nous affirmons que compte tenu des circonstances, afin de mettre fin aux attaques, c'était ce qu'il était possible de réaliser. Et c'est ce que nous avons fait. De ce point de vue, nous sommes convaincus que nous avons réussi à mettre fin à une menace et à poser certaines bases. Nous avons défendu certaines de nos réalisations et sur cette base, nous voulons mener ensemble un combat plus important. Moi, je tiens à dire ceci, nous entamons maintenant une nouvelle lutte et cela nécessite beaucoup de choses. Cela nécessite des efforts, du courage et du travail. Que tous nos compatriotes qui ont été déplacés puissent retourner sur leur territoire. Je m'adresse tout particulièrement à nos concitoyens d'Asaké. Je sais que certains sont chez eux, mais certaines personnes ont quitté Asaké. Puissent-ils tous revenir, car nous mènerons une grande lutte ici et nos forces de sécurité sont là. Dans toutes les autres régions, notre peuple devrait nous critiquer s'il le souhaite. Nous sommes prêts à les écouter. Mais en même temps, nous ne pouvons pas abandonner la lutte afin de défendre les acquis que nous avons laissés et atteindre nos objectifs, ces objectifs que nous voulions vivre ensemble. En vérité, nous avons perdu de nombreux martyrs. Beaucoup de nos camarades ont été blessés à la guerre. Il nous est impossible de les oublier. Nous avons été tous ensemble depuis le début de la révolution jusqu'à aujourd'hui. Nous avons perdu des milliers de martyrs. Nos camarades du commandement sont tombés en tant que martyrs, tout comme nos compagnons d'armes. Ils sont eux-mêmes une raison de poursuivre ce combat. Non pas pour les adoucir, mais pour continuer avec encore plus d'élan. Je veux me souvenir de tous les martyrs. Je souhaite un prompt rétablissement aux blessés. Notre peuple a fait un effort considérable afin de répondre à cet effort. Nous promettons de nous battre encore plus fort à partir de maintenant. Nous continuerons avec plus de force dans cette nouvelle étape, avec de nouvelles méthodes. Et ce que nous demandons à notre peuple, c'est que malgré tous les obstacles, nous puissions renforcer de nouveau, ensemble, cette lutte.
Parce que pour moi, la convergence des luttes, c'est ce qui amènera le changement. C'est pas en restant en autarcie, là, sur nos petits, avec nos petites idées, dans un petit coin, que ça changera les choses. Si on n'est pas ensemble, ça marchera pas.
Vous retrouverez toutes nos émissions sur actualitédesluttes.info.
Je pense pas qu'on aura nos places si on change pas le système radicalement.